Radio Okapi.
Une certaine accalmie est observée ce samedi matin à Kanyabayonga dans le territoire de Lubero au nord Kivu. C'est après deux semaines d'intenses combats entre les FARDC et les rebelles du M23. Dès hier après-midi, les activités socio-économiques ont repris timidement dans certains quartiers de cette cité. Pendant ce temps, sur l'axe Kikuku-Kanyabayonga, la situation reste extrêmement volatile. Jusque tard dans la soirée hier vendredi, de violents affrontements y ont opposé l'armée congolaise et ses alliés locaux au M23. Trois cas de choléra, dont un décès, ont été enregistrés en l'espace de 5 jours au centre de traitement de cette épidémie installée à l'hôpital général de référence de la Mouya à Mbujimayi. Le choléra refait donc surface au Kassai oriental. Docteur Jean-Pierre Sumba, médecin épidémiologiste provincial, demande à la population d'observer les règles d'hygiène. Le lieutenant-colonel Kedani Mensah est l'invité de ce journal. Le porte-parole militaire de la force de la MONUSCO va parler des opérations de la force de la MONUSCO en appui au FARDC et la protection des civils dans la zone des combats contre la rébellion du M23 autour de Kanyabayonga. Bonjour à tous. Une certaine accalmie est observée ce samedi matin à Kanyabayonga dans le territoire de Lubero, au nord Kivu. C'est après deux semaines d'intenses combats entre les FARDC et le M23. Selon le bourgmestre de cette commune rurale, aucun tir d'armes n'a été entendu la nuit dernière. L'ennemi aurait été repoussé au-delà du site d'armoirie à plus de 15 kilomètres de la cité sur la route de la Rwindi, ajoute-t-il. Dès hier après-midi, les activités socio-économiques avaient repris timidement dans certains quartiers de cette cité, précise Kasereka Fatiri, bourgmestre de cette commune, qui ajoute que la présence des FARDC et des casques bleus de la MONUSCO rassure la population civile. Pendant ce temps, la situation reste extrêmement volatile ce samedi sur l'axe Kikuku-Kanyabayonga. C'est dans la partie nord de la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Jusque tard dans la soirée, hier vendredi, de violents affrontements y ont opposé l'armée congolaise et ses alliés locaux aux hommes du M23. Les sources locales confirment la reconquête par l'armée congolaise de plusieurs villages de la zone, éloignant ainsi les combats de la cité de Kanyabayonga au sud de Lubero. Bernard Danyangi.
Les violents combats ont été signalés entre 17h et 20h locales hier vendredi dans les villages Mirangi, Lusuli et Kiala, une vingtaine de kilomètres de la cité de Kanyabayonga. Selon certaines sources militaires, les éléments FARDC et ceux d'une coalition d'au moins 3 groupes armés locaux ont débordé les rebelles du M23 pour les attaquer et réussir à les déloger dans ces entités qui seraient à nouveau sous contrôle de l'armée. Toutefois, selon nos sources, les rebelles du M23 maintiennent toujours leur emprise sur les villages Lusoa et Bulindi, en mi-chemin entre les 3 villages et Kanyabayonga cité au sud de Lubero. D'autres combats ont été signalés dans les mêmes heures à Kikuku, chef-lieu de la chefferie de Bwito, et sur l'axe Kabasha-Armoiri, dans le parc national de Virunga, en direction de la Rwindi, toujours en territoire de Rutshuru. Côté bilan, nos sources parlent des déplacements des populations et une dizaine de civils qui auraient été tués comme victimes collatérales à Kiala dans ce combat d'hier vendredi. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Toujours au nord Kivu, dans le territoire de Beni, une dizaine de civils ont été tués par les rebelles des ADF hier à Masala, une localité du groupement de Baswa-Gamadiwe. Des sources locales renseignent que ces derniers, pendant leur fuite de l'offensive des FARDC, sont passés dans plusieurs villages de ce groupement avant de traverser la rivière Biena en direction du territoire de Mambasa en Ituri, d'où ils étaient venus. La société civile plaide pour le déploiement des forces conjointes FARDC-UPDF dans cette zone pour traquer ces rebelles. Marc Marofimbo.
La société civile du groupement de Baswa-Gamadiwe dresse un bilan provisoire d'au moins 10 civils tués vendredi par les rebelles ADF à Masala. Ils ont également incendié 3 motos des cultivateurs qui revenaient de leur champ. La même source indique que ces rebelles étaient venus des localités de Masau et de Mununze où ils ont tué 35 civils mardi dernier. Plusieurs ménages de déplacés venus de Masala, Masau et Mununze sont arrivés vendredi tard dans la soirée à Cantine Centre et à Mabalako, chef-lieu du groupement de Baswa-Gamadiwe. Des sources locales précisent que ces rebelles ont pris la direction des villages villages de Bubutika, Matale et Lukaya, où ils auraient également tué d'autres civils avant de regagner le territoire de Mambasa d'où ils étaient venus. La société civile du groupement de Basso Amadiwe plaide pour le déploiement des forces conjointes FRDC ou PDF dans cette partie ouest du territoire de Beni, où ces rebelles des ADF sont très actifs. Cette structure citoyenne demande également aux forces armées de toujours prendre en considération les alertes sécuritaires de la population. Signalons que depuis le début de cette semaine, ce sont 41 civils qui ont été tués par ces rebelles des ADF dans plusieurs localités du groupement de Basso Amadiwe. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Dans la partie ouest du pays, au Congo central, la police du territoire de Mbanzangungu a mis la main sur le présumé assassin d'un motard de la cité de Lukala, dont le corps a été découvert en état de décomposition hier vers Tumba Mission. Le présumé meurtrier a été présenté à la presse par le major Babel Mandefu du bureau 2 de l'état-major commandement de Mbanzangungu. Il appelle les motocyclistes de Lukala au calme et les rassure que cet homme et toute sa bande seront mis hors d'état de nuire. Nana plus riche Mambo.
Yvon Mambote, présenté comme étant assassin du motard José Pamouké, habite à Lukala. Le 5 juin dernier, aux environs de 9h, lui et son coéquipier nommé Chris ont été aperçus en train de solliciter une moto qui conduisait Fait José Pamouké pour aller vers Tumba Mission en territoire de Mbanzangungu. C'est de là qu'ils ont tué les motocyclistes et ont jeté son corps dans la forêt à Tumba Mission. Après leur forfait, les deux bandits se sont volatilisés avec la moto dans la nature. Yvon Mambote, lui qui s'était camouflé en Mbanzangungu, a été appréhendé et arrêté. Son coéquipier, un certain Chris qui avait pris la direction de Songololo, demeure introuvable. Yvon Mambote n'est pas à son premier forfait, comme l'affirme le major Babel Mandefu, responsable du bureau d'aide de l'état-major commandement de la police Mbanzangungu.
Ce sont des criminels, c'est pas pour la toute première fois. Il y a beaucoup de gens qui sont tués là-bas à Lukala. Je crois que c'est la troisième personne qu'on vient de tuer. On tue les motards, on ravit la moto. Jusque-là, on l'a pas encore auditionné. On saura où ils ont mis cette moto-là.
C'est ce 8 juin que ce présumé assassin sera déféré au parquet près le tribunal de grande instance de Mbanzangungu, où il devra répondre de son acte. Matadi, Nana plus riche Mambou, Radio Okapi.
En Ituri, le tribunal de paix de Mahagi ne siège plus sur toutes les matières pénales depuis environ 3 ans, faute de juge. Conséquence, la plupart des prisonniers sont détenus de façon irrégulière. Les conditions de détention sont également précaires dans la prison centrale de Mahagi, où les adultes et les enfants en conflit avec la loi partagent les mêmes cellules. C'est le constat fait par une équipe conjointe d'inspection judiciaire, MONUSCO et autorité congolaise, qui est revenue jeudi de cette entité territoriale de l'Ituri.
Le tribunal de paix de Mahagi ne dispose que d'un seul juge au lieu de 3 pour siéger valablement sur les dossiers en matière pénale, ce qui fait que plusieurs détenus ne sont pas fixés sur leur sort à la prison centrale de Mahagi qui abrite actuellement 89 personnes dont la plupart sont des prévenus. De nouveaux prisonniers qui s'ajoutent à ces derniers passent également des mois sans être jugés. À cela s'ajoutent les conditions de détention qui ne répondent pas aux normes requises. Environ 19 enfants en conflit avec la loi sont mélangés avec des adultes dans une salle exiguë. L'établissement des gardes et d'éducation de ces enfants construit en Ngoté à une vingtaine de kilomètres est occupé par des déplacés. Selon cette équipe d'inspection, ce bâtiment doit être réhabilité avant de délocaliser ces enfants. Cette délégation déplore aussi le manque d'eau et d'énergie pour éclairer la prison centrale de Mahagi. Au cours d'une journée porte ouverte organisée au début de la semaine à Mahagi, certains activistes des droits de l'homme demandent au gouvernement de nommer dans l'urgence des juges dans cette juridiction. Ils réclament aussi l'amélioration des conditions de détention dans cette prison à séparant les enfants détenus des prisonniers adultes. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Restons en Ituri. Inauguration hier à Bounia du projet d'appui à 5 radios, dont 3 de Bounia et 2 des territoires de Djougou et Irumou, à travers la dotation des panneaux solaires. Ce projet, réalisé par la section de l'information publique de la MONUSCO, vise à renforcer ces radios en termes d'énergie solaire. Cette cérémonie d'inauguration s'est déroulée dans les installations de la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC Bounia, en présence des autorités provinciales et autres partenaires. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Radio Canal Révélation, Radio Télévision FNDC Ituri et Radio Télévision Nationale Congolaise sont les trois médias de Bounia ciblés pour bénéficier de kits complets de panneaux solaires. Faute de moyens et à cause de coupures intempestives du courant électrique, ces radios étaient obligées de limiter les temps d'antenne, comme l'explique Liane Niacha, la chef de l'information publique de la MONUSCO à Bounia.
Le fait de leur offrir ces panneaux vont leur permettre, pour certaines, de doubler, voire tripler leur temps de diffusion. Et nous espérons que ces équipements vont bénéficier plus longuement.
La station locale de la RTNC a installé 4 gros panneaux solaires et leurs accessoires d'une puissance de 3,5 kVA. Serge Carbal, le responsable adjoint de cet organe de presse, avoue que cette dotation a permis d'améliorer la grille de programmes pour offrir à la population des émissions diversifiées.
Grâce à cette stabilité énergétique des panneaux solaires, notre section programme a établi une nouvelle grille des émissions radio axée sur la paix, l'éveil patriotique et les renforcements des liens de solidarité entre les communautés de l'Ituri en vue de mieux accompagner les efforts du gouvernement de l'état de siège et de son partenaire stratégique, la MONUSCO.
Les journalistes de ces radios ont également bénéficié de plusieurs formations sur l'écriture radiophonique, la lutte contre la désinformation et le discours de haine. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Le choléra refait surface au Kasaï oriental. 3 cas de choléra, dont un décès, ont été enregistrés en 5 jours au centre de traitement de cette épidémie installé à l'hôpital général de référence de la Mouya à Mbujimayi. 2 cas proviennent de la zone de santé de Mouya même, à Mbujimayi, et un autre de Chilenge, à plus de 30 kilomètres de la ville. À cet effet, Dr Jean-Pierre Sumba, médecin épidémiologiste provincial, demande à la population d'observer les règles d'hygiène. Il a été joint au téléphone par Esther Ndalafina.
Les cas venus de la zone de santé de la Mouya, ils sont pris en charge dans le centre de traitement de choléra qui est à Mouya. Mais il faut noter qu'aujourd'hui, nous avons reçu aussi un cas de choléra qui vient cette fois-ci de Chilenge. C'est un jeune homme de 14 ans qui est aussi interné dans le même centre. Les mesures ont été prises par rapport à la prise en charge, mais aussi on a fait un effort pour que, au niveau communautaire, on puisse faire le quadrillage des endroits d'où provenaient ces cas. Et on a désinfecté le maison, environ 20 ménages autour de la maison mère. Et peut-être que pour Chilenge, on va le faire déjà demain parce que le cas est arrivé aujourd'hui. Il y a aussi la population qui doit revenir à nos mesures hygiéniques, qui doit tenir compte de l'hygiène corporelle, de l'hygiène alimentaire, surtout de l'environnement aussi, pour que la maladie ne puisse pas continuer dans nos milieux. Sinon, nous avons aussi pour demain une grande réunion avec toutes les parties prenantes pour voir comment on peut mener la lutte contre ces retours de choléra au niveau de la province.
Améliorer les conditions de vie des populations riveraines en évitant de saccager les forêts congolaises, c'est l'un des objectifs du projet de gestion intégrée, durable et adaptative pour soutenir la restauration de la biodiversité dans les provinces du Kwango, du Haut-Katanga et du Lualaba. C'est ce qu'a indiqué hier à Kinshasa le secrétaire général au ministère de l'Environnement. Il a ajouté que ce projet est financé à hauteur de 80 millions de dollars américains par le Fonds mondial de l'environnement et exécuté sur une période de 5 ans par FIDA. Benjamin Toraimbe le dit à Paul Matendo.
Les objectifs, c'est faire en sorte que les communautés ciblées dans ce projet de Miyombo puissent améliorer leurs conditions de vie. C'est-à-dire éviter à saccager la forêt, mais en les restaurant, ça va augmenter la biodiversité, mais ça aidera aussi les communautés de ces provinces d'améliorer les conditions de leur vie et d'éviter un peu la dégradation de ces forêts. Donc voilà un peu le schéma que nous allons voir, les documents. Nous allons l'améliorer par rapport aux directives du bailleur, qui est l'FM, et aussi de la politique et du gouvernement de la République démocratique du Congo. Parce que ça doit marcher ensemble. Et surtout, pourquoi nous avons cet argent? Cet argent, c'est nos allocations. L'allocation financière de l'RDC venant donc du Fonds de l'environnement mondial. Notre souci est que ça puisse être bien géré et que ça répond exactement aux documents que nous allons consolider aujourd'hui pour que l'exécution soit facile et que l'implication des parties prenantes qui sont ici et d'autres qui sont dans des provinces soit aussi intégrée pour que tout le monde puisse se retrouver au résultat qui sera escompté.
Pour elle, sport et culture, c'est le projet financé par l'Agence française de développement AFD et mis en œuvre par Expertise France. C'est pour réhabiliter et aménager des établissements de formation culturelle et des infrastructures sportives culturelles de proximité à Kinshasa. Le but étant d'accueillir et garantir la pratique de sport par les jeunes filles. Ce projet a été lancé hier au terrain Allemagne de Bandalungwa ici à Kinshasa, en présence de quelques membres du gouvernement congolais et des diplomates européens, dont le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, ainsi que le ministre sortant des Sports, François Kaboulo-Mwanakabulo, sans oublier l'ambassadeur de France en RDC, Bruno Aubert. Selon la chef du projet, Florence Doise-Bonnet, cette initiative utilise le sport et la culture comme levier pour réduire les inégalités de genre en faveur de la jeunesse congolaise et des femmes en particulier. On l'écoute au micro de Grace Mvuezo-Lolenvo.
Le projet Pour elle, sport et culture a démarré depuis déjà 3 mois parce qu'un projet, il faut des équipes qui les font vivre. Mais aujourd'hui, on est là pour le lancement officiel avec les autorités. C'est un projet qui est donc financé par l'Agence française de développement que nous mettons en œuvre avec Expertise France en collaboration, en partenariat avec tous les acteurs congolais. C'est un projet qui vise à favoriser l'accès aux pratiques culturelles et sportives pour les femmes et les jeunes filles en République démocratique du Congo. Et on commence déjà à Kinshasa et plus spécifiquement dans 4 communes. Donc Lingwala, Bandalungwa, Kimanseke et Nsele. Ce projet, il va d'abord rénover des espaces. Il y a un volet vraiment d'infrastructure adaptée, inclusive, pour que les filles puissent y accéder par rapport aux freins qu'on a pu connaître par rapport à cette accessibilité. Ils seront rénovés, ils seront réhabilités en terrain multisport. Donc ce ne sera pas seulement pour le football ou pour les terrains ou pour les sports collectifs comme le rugby. Il y aura aussi des espaces pour le volleyball, pour le basketball.
Actualité internationale.
Un tribunal zambien a condamné hier 22 ressortissants chinois à des peines d'emprisonnement pour des actes de cybercriminalité, notamment des fraudes et des escroqueries en ligne visant des Zambiens et d'autres personnes de Singapour, du Pérou et des Émirats arabes unis. Le tribunal de première instance de la capitale, Lusaka, les a condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 7 à 11 ans, sans oublier une amende de 2 500 à 3 000 $ américains après qu'ils ont plaidé coupables mercredi des fausses déclarations informatiques, d'usurpation d'identité et d'exploitation illégale d'un réseau ou d'un service. Un homme originaire du Cameroun a également été condamné à une peine de prison et à une amende pour les mêmes faits. Ils faisaient tous partie d'un groupe de 77 personnes, dont une majorité de Zambiens, arrêtés en avril dans le cadre de ce que la police a décrit comme un syndicat sophistiqué de fraude sur Internet.
L'invité.
L'invité de cette édition, c'est le porte-parole militaire de la force de la MONUSCO. Le lieutenant-colonel Kedani Mensa nous parle des opérations de la force onusienne en appui au FRDC et la protection des civils dans la zone des combats contre le M23 autour de Kanyabayonga. Il revient aussi sur les interventions de la force onusienne dans la région de l'Ituri. Le lieutenant-colonel Kedani Mensa s'entretient avec Bernard Danyangi.
Lieutenant-colonel Kedani Mensa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
D'abord, nous commençons par Kanyabayonga. Comment évolue aujourd'hui la situation sécuritaire et humanitaire?
À la lumière des récents affrontements violents entre le groupe armé M23 et les forces armées congolaises au sud de Kanyabayonga, dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu, il y a eu un déplacement important des civils vers Kanya, Miriki, Kirumba, certains atteignant Lubero et Butembo. En réponse, la MONUSCO, en coordination avec les forces armées congolaises, a établi et sécurisé des itinéraires sûrs permettant aux personnes déplacées de se déplacer librement vers des zones plus sécurisées. La force de la MONUSCO intensifie ses patrouilles de jour comme de nuit autour des bases des déplacés pour assurer l'aide humanitaire à environ 150 000 hommes, femmes et enfants touchés par le conflit et remplit son mandat de protection des civils. La force de la MONUSCO a ainsi assuré l'approvisionnement en eau et le soutien médical aux personnes déplacées et en fournissant aussi une protection aux agences humanitaires. Elle a aussi effectué depuis le 27 mai 2024 plus de 52 patrouilles en plus de la sécurisation de Lasa, Kilambo, Mirangi, Kanyabayonga, Kania, Kirumba vers les camps de déplacés. En outre, ils interagissent avec ces derniers pour acquérir les informations pouvant leur permettre de dissuader les activités des groupes armés et assurer leur sécurité.
Et alors, dans la province de l'Ituri, qu'est-ce qui s'est passé le 31 mai 2024 dans le village d'Ar par rapport à la détention d'une personne?
Le 31 mai 2024, la MONUSCO a reçu l'information de la détention arbitraire d'un individu par des habitants du village d'Ar, situé au nord-ouest de la base de la MONUSCO à Bayou. Selon ces habitants, le village d'Ar aurait l'intention de transférer la garde de l'individu à des membres de la société civile de Boulé, les incitants à demander l'aide de la MONUSCO pour assurer la sécurité et faciliter les négociations pour la libération de cet individu. En réponse, les forces de la MONUSCO ont déployé une patrouille d'invention rapide de la base de Mayo au village de Boulé, en coordination avec un officier de FADC et des membres de la société civile, notamment le chef de la communauté Boulé, le président de la société civile et un assistant linguistique pour aider à toute négociation nécessaire entre la MONUSCO et les habitants. En arrivant au village d'A, il a été découvert que la personne détenue souffrirait d'une maladie mentale et avait été détenue en raison de soupçons sur ses mouvements. La patrouille de la MONUSCO a récupéré l'individu et ensuite profité de l'occasion pour organiser un dialogue intercommunautaire entre les communautés. Ils ont exprimé leur gratitude à la MONUSCO pour son soutien et se sont engagés à maintenir l'harmonie communautaire. Par la suite, la patrouille de la MONUSCO s'est rendue au village de Boulé, accompagnée des restants communautaires afin de remettre la personne précédemment détenue saine et sauve à sa famille.
Et un jour avant cet incident, le 30 mai 2024 à Amé cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé entre la MONUSCO et les associations communautaires?
Le 30 mai 2024, la base de la MONUSCO à Amé a organisé une session cruciale d'engagement des dirigeants avec les chefs du groupement et divers responsables de la communauté pour répondre aux préoccupations sécuritaires et humanitaires. Bien que la sécurité se soit améliorée à Djougou et Mahagui ces derniers temps, les milices de la CODECO continuent de représenter des menaces dans des zones telles que Kangal 2 et Mbrumbu. Un camp de la CODECO près du village de Choubet a été identifié comme une menace importante. Les discussions ont également porté sur la mauvaise gestion de l'aide qu'ils reçoivent. La MONUSCO est sollicitée en collaboration avec les dirigeants locaux pour assurer une distribution équitable et soutenir le programme de désarmement, démolition, relèvement communautaire et stabilisation. L'accent a été mis sur la sécurisation des zones pour faciliter le retour en toute sécurité des populations déplacées.
Revenons un peu à Kanyabayonga encore, une fois de plus. Qu'est-ce que nous pouvons retenir sur les dégâts causés par l'obus lancé sur la base de la MONUSCO? C'était le 6 juin.
Oui, effectivement. Le 6 juin 2024, la base de la MONUSCO à Kanyabayonga a également été la cible de tirs indirects de mortier, blessant un soldat de la paix et endommageant la base. C'est la quatrième fois que la base de la force de maintien de la paix est la cible d'affrontements de haute intensité dans la région, en plus des maisons civiles. Malgré tout, la MONUSCO est déterminée à remplir son mandat de protection des civils.
Lieutenant-colonel Kedani Messa, merci.
Je vous remercie.